Je suis avec Antoine Barraud, bonjour.
Bonjour.
Bientôt bonsoir pour l'avant-première de votre film à Genève ce soir. Nous sommes au bord du lac Léman pour parler de votre dernier film, Madeleine Collins, avec la rayonnante, la lumineuse Virginie Efira, et qui interprète donc Judith Fauvet, une mère de famille, des enfants adolescents, un très célèbre mari. Et puis, rapidement, vous l'avez amenée dans une autre vie. Elle mène une double vie et ça tient depuis des années. Comment est née, quelle est la genèse de ce projet, de ce film ?
La genèse, elle était au départ très simple. C'était une simple image d'une femme dans un train, au départ, qui faisait des allers-retours. J'ai juste eu cette image, je ne sais pas pourquoi cette image m'a... Il y avait une émotion, hein, comme une pièce jointe avec cette image, il y avait une émotion. Et comme souvent, à chaque fois que j'ai une idée de film, je fais une sorte de travail d'agrandissement comme une photo, un peu comme dans le film d'Antonioni. Là. Je regarde ce qu'il y a dedans et je me dis, ok, alors est-ce que c'est doux, est-ce que c'est violent, est-ce que c'est le jour, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est il y a 100 ans, est-ce que, etc., etc. Et j'essaie d'agrandir les choses comme ça. Et donc en agrandissant, bah, je me suis dit, donc elle fait des allers-retours, ok, ah, puis je me suis dit, ah, bah, tiens, ça a l'air d'être entre deux pays. Puis je voyais un paysage qui est en fait celui que j'ai vu il y a encore une heure dans le train, qui était entre Paris et Genève. Ah tiens, c'est entre Paris et Genève, ah bon, ouais. J'essaie de creuser toutes ces choses-là en fait. Et alors qu'est-ce qu'il y a entre Paris et Genève? Ah bah deux familles, ah tiens, ok, ah double vie. Et c'est comme ça que j'arrive aux choses en fait. Et là, en arrivant à la double vie d'une femme, qui n'était pas du tout un sujet que j'ai choisi au départ, je ne me suis pas creusé la tête en me disant qu'est-ce que je pourrais faire comme sujet. Mais par contre, en y arrivant, je me suis dit, bah, ça c'est intéressant, la double vie d'une femme, on n'a pas vu ça. On n'a même jamais vu au cinéma.
Le classique, c'est l'homme.
Ben voilà, et dans la vie et au cinéma. Au cinéma, je crois qu'il y a... Alors j'ai retrouvé une comédie avec Miu Miu dans les années 80. Il y a éventuellement The Bigamist, le film d'Ida Lupino. Il y a extrêmement peu de choses, voire quasiment rien. Et je me suis dit, bah, ça c'est chouette parce qu'il y a tout à faire en fait. Alors évidemment, peut-être d'autres scénaristes sont allés dans cette direction avant moi et ont buté sur bah, le premier obstacle évident, la grossesse. Évidemment, pour un homme, c'est très facile d'avoir une double vie, y compris avec des enfants. Pour une femme, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, je ne sais pas si d'autres ont abandonné à ce premier obstacle. En tout cas, moi, cet obstacle-là, je l'ai trouvé plutôt excitant. Et je me suis dit, ok, bah, contournons l'obstacle, voyons comment ça peut se passer. Et tout ça, c'est, voilà. Et de ça, je tire les fils et ça m'amène quelque part.
Et vous tissez le travail sur le métier. Et donc, justement, on comprend qu'il y a des parts d'ombre. Mais au départ, on ne comprend pas très bien cette double vie. On n'a pas les éléments. Et vous laissez quand même des ellipses. Mm-hmm. Comment s'est passée l'écriture, justement, pour que vous donniez suffisamment d'éléments aux spectateurs, mais pas trop pour
ça, ne pas... ça, c'était la grande difficulté. Mais c'était aussi la chose qui m'excitait. C'était que je trouve qu'on a un peu perdu parfois au cinéma le sentiment que moi, j'adore de ne pas savoir où ça va. J'adore ça, et ce qui ne veut pas dire que j'aime pas les films où on sait où ça va. Des fois, c'est agréable de retrouver des codes, notamment dans le genre. On aime savoir où ça va, ça peut être un vrai plaisir. Mais je trouve que ce n'est pas le seul plaisir du cinéma. Et les films dans lesquels on ne sait pas du tout où ça va, où le sol s'ouvre sous nos pieds, c'est quand même un sentiment particulier. J'avais vraiment envie de ça. Et j'avais envie, du coup, que ça rende le spectateur actif. J'avais envie d'un film participatif, où on est excité par le fait de ne pas comprendre et pas assommé par le fait de ne pas comprendre. Mais ça, par contre, c'était la vraie difficulté. C'est qu'à partir du moment où moi, je joue avec quelque chose qui fait qu'on ne comprend pas tout de suite, que l'histoire ne se donne pas tout de suite, il faut être du côté agréable de ne pas comprendre et pas du côté désagréable où on décide de jeter l'éponge. Donc ça a fait que l'écriture, elle a été très longue. J'ai assez vite perdu l'objectivité, moi, sur les choses, puisque comme c'est un film qui se raconte pas de A à Z, mais de Z à A, moi, connaissant l'histoire, j'avais parfois du mal à me dire, alors, est-ce que ça, on l'a compris? Est-ce que ça, on doit encore le comprendre, etc., etc. Donc ça a été long, parce que parfois, j'ai dû abandonner le script pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour me recréer de l'objectivité en le lisant. Après, il y a une chose qui est d'une simplicité absolue, mais qui m'a beaucoup aidé. Un jour, je me suis dit, en fait, une scène, une information. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, parce que quand on écrit une scène, on ne se pose pas la question combien il y a d'informations dedans. Mais finalement, de me la poser m'a permis de répartir ces informations, justement, dans le film. Et du coup, que chaque scène qui amène un élément nouveau permette à cet élément de se déployer entièrement, pour toute la durée de la scène. Quand on l'a entendu, on a été éventuellement surpris, puis on essaye de le mettre quelque part dans notre puzzle mental, puis on l'a intégré, là on peut le dépasser. prochaine scène, nouvel élément. Et ça, je pense que ça a créé ce rythme qui fait que le film avance en permanence et que même si on ne comprend pas tout de suite et que l'histoire n'est pas donnée tout de suite, on a ce côté ludique où on sent quand même que le puzzle est en train de se faire. Et j'espère que ça, c'est l'aspect excitant du film.
Moi, je le voyais presque à titre, c'est mon ressenti, comme un tableau d'impressionniste où vous mettez par touche une couleur et ça commence à se prendre forme sous les yeux des spectateurs. Mais en même temps, on n'a pas tous les éléments, donc on reste encore à la fois en attente, on est avide de savoir et déstabilisé aussi. Et pour ce faire, est-ce que vous disiez la difficulté à l'écriture, justement de prendre du recul, d'avoir un peu plus peut-être d'impartialité, est-ce que vous avez sollicité des proches pour qu'ils vous disent « Ah ben là, voilà, on n'a pas suffisamment d'éléments » ou « Est-ce que là, non, on en sait trop ?» Est-ce que vous avez été aidé ?
J'ai fait pas mal de lectures, oui, avec des gens, mais ça comme tous les scénarios et comme tous les montages, en général, il y a une phase où on a l'impression qu'on tient quelque chose et on le fait lire à des amis, soit cinéastes, soit justement des amis pas du tout dans le cinéma, etc. Ça, j'ai testé ça. Il y a quand même eu un moment où j'avais besoin de plus que ça. Donc la dernière année de l'écriture, j'ai eu une consultante qui s'appelle Elena Klotz, qui est elle-même cinéaste et dont j'aime beaucoup le travail, et qui m'a vraiment aidé sur ça. En fait, elle était vraiment mon miroir objectif, quoi. Elle me disait, bon, bah, ça, on a déjà compris, ça, on n'a pas du tout compris, ça, on l'a compris 4 fois, etc. Et donc, elle m'a beaucoup aidé sur ça. Ça, c'était très, très utile, sur la dernière année, à peu près.
Je le mentionnais au début d'entretien, le film est porté par Virginie Efira, lumineuse, solaire, rayonnante. Et il y a également Bruno Salomon, et il y a Kim Gutiérrez, avec un prénom pourtant arabophone, Abdel. Comment est venu le choix de ces comédiens ? On mentionnera les autres peut-être après, qui sont en fait, qui gravitent autour de cette figure centrale. Est-ce que c'était déjà à l'écriture ou est-ce que c'est venu en fin d'écriture ?
Alors j'avais aucun visage à l'écriture, j'étais entièrement pris, comme je vous disais, par l'écriture elle-même qui me submergeait, donc j'avais pas encore de visage. Par contre, c'est vrai qu'une fois le scénario abouti, je voyais que Virginie. Je voyais qu'elle, exactement pour la raison que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui a l'air tellement saine, tellement pleine comme posé. Un fruit, tellement posé, tellement parfaitement équilibré, etc., que je savais qu'avec une comédienne comme ça, sans même parler de son immense talent dont il faudrait parler aussi, mais en tout cas ça je le prenais comme base quasiment, mais cette chose qu'elle avait en plus de son talent inouï, c'était ça, c'était ce soleil, cette lumière, ce truc qui fait qu'on l'aime. Et Virginie, elle a ce truc incroyable, on l'aime, c'est pas vrai de toutes les stars. Il y a des stars qui nous fascinent, il y a des stars qui nous écrasent, qu'on aime d'une autre façon, mais elle, on l'aime comme une amie, on l'aime comme une proche, on l'aime. Elle est très belle, mais en même temps sa beauté n'est pas écrasante, elle est, etc. Elle paraît proche. Un peu comme Meryl Streep, je trouve. Et j'ai beaucoup pensé à Meryl Streep parce que Kramer contre Kramer, c'était une des grandes références pour mon film. J'adore ce film, même si Meryl Streep dans Kramer, elle a un rôle secondaire. C'est aussi un grand personnage féminin qui justement fait des choses très novatrice par rapport au personnage féminin dans les grands films hollywoodiens mainstream, etc. Elle abandonne son enfant, elle se bat pour le récupérer, elle le réabandonne, mais c'est Meryl Streep. Et quoi qu'il arrive, on se dit, mais c'est Meryl Streep, donc elle a une raison. On va chercher l'humanité dans son visage, dans sa voix, dans son jeu, et je pense que Virginie a ça. Et c'est quelque chose d'exceptionnel que très peu de gens ont. Et ça me permettait d'aller très loin dans ses actes, ça me permettait d'aller très loin dans sa perversité, ça me permettait d'aller très loin dans sa complexité, dans son aspect manipulatrice, sans qu'on la condamne. En tout cas, sans qu'on la condamne entièrement. Et du coup, quand elle est vraiment condamnable, on est déjà tellement loin avec elle et on est tellement depuis longtemps avec elle qu'on va plus la lâcher, en fait. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin et qui est pour moi l'essence de Virginie. Et d'ailleurs, elle a cette intelligence de comédienne aussi de savoir comment son physique, justement tellement solaire, peut être utilisé de façon bien plus intéressante que uniquement solaire. Elle a cette intelligence et cette curiosité. Elle l'a vraiment. Ça, c'est assez merveilleux.
Quelles que soient les facettes de sa double vie, justement, elle est toujours... on la voit intègre au moment où elle se trouve. On ne va pas tout dévoiler du film, mais en fait, c'est entre la France et la Suisse, comme vous disiez. Et chaque fois, elle a l'air d'être au bon moment, à la bonne place. Mais on voit qu'il y a quand même des souffrances. On comprend au fur et à mesure qu'il y a une profonde peut-être souffrance existentielle. Chaque fois, elle parle de chute de tension. Elle fait des malaises. Et ça, vous vouliez travailler là-dessus pour qu'on ait peut-être de l'empathie pour elle, malgré cette double vie ?
C'est pas malgré cette double vie, c'est oui. avec cette double vie. Moi, je vais pas dire que le film défend le mensonge, oui. mais en tout cas, le film, une des choses qui m'intéressait dans le film, c'était justement d'amener des nuances à l'idée du mensonge, qui est quelque chose que la société condamne de fait, et d'autant plus les doubles vies. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de touchant aussi. Encore une fois, le mensonge n'est pas forcément l'arme la plus glorieuse, la plus efficace ou la plus la plus défendable, mais c'est parfois ce qu'on a, le mensonge, pour justement s'émanciper, pour se libérer. Et il y a quelque chose de touchant. Moi, je vois un personnage qui a envie de liberté, qui a envie d'intensité, qui est étriqué dans une vie, et voilà, on vit qu'une vie, donc pourquoi pas essayer de vivre de façon, si ce n'est plus multiple, en tout cas d'une façon qui nous rapprocherait de ce qu'on est. Il y a quelque chose de l'enfant aussi qui teste les limites. D'ailleurs, à un moment, elle dit « je m'appelle Margot Paul », ce qui n'a absolument aucun sens. Nous, on sait d'où elle rapièce des bouts de trucs qu'elle a chopés dans la vraie vie. Mais pour moi, c'est une enfant qui teste. Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Et comme un enfant qui teste, pourquoi il teste? Parce qu'il cherche qui il est. Il cherche ce à quoi il a le droit. Il cherche les limites, et puis il cherche qui il ou elle est dans ses limites. Et il y a quelque chose comme ça dans le personnage. Et bien sûr, dans tout ça, il y a, si ce n'est des souffrances, au moins de la mélancolie, de n'être vue finalement que comme une épouse, ou comme une mère. Elle a peut-être envie d'être autre chose, d'être plus, d'être mieux, d'être moins, d'être à côté. Elle ne sait pas elle-même, je pense. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle le cherche.
Et au-delà de rechercher qui on est, de rechercher les limites ou le mensonge, il y a aussi un grain de folie.
Oui, il y a un grain de folie, mais finalement, la folie, c'est... Après, il y a la folie clinique, mais je veux dire, la folie, c'est tout de suite. C'est, dès qu'on est hors du code social, c'est déjà de la folie, de toute façon. Et hors le code social, il est très, très restreint, il est très étriqué. Donc, à partir du moment où on base quelque chose justement sur le mensonge, on est déjà hors code de la société. Et pourtant, est-ce que c'est si mal? Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si pendable que ça? Moi, ce que j'aime dans le mensonge aussi, c'est qu'on génère de la fiction avec le mensonge. C'est là aussi où moi, je me sens proche de ça, parce que c'est proche de mon travail, en fait.
Ça peut être un stimuli au quotidien.
Ben oui, pourquoi pas, finalement, pourquoi pas. Après, avec la limite, évidemment, du mal qu'on fait autour de soi. Et elle en fait, donc je dis pas que c'est bien, je dis pas, non, voilà, je dis juste que c'est... Il y a quelque chose, il peut y avoir un appel là-dedans, un appel à la liberté, une envie de vivre fort, qui s'entend, je trouve.
Antoine Bord, on a beaucoup parlé d'autres actrices principales, donc Virginie Efira. Vous pouvez parler des autres comédiens, comment vous les avez choisis pour les personnages à incarner?
Ben, moi, c'est vrai que je dis souvent que quand on a quelqu'un du niveau de Virginie, pour moi, c'est un peu comme un match de tennis. C'est-à-dire que si on regarde Nadal, on n'a pas envie de le regarder jouer contre un mur. Ça n'a aucun intérêt. On veut le voir jouer contre un autre champion.
Federer,
voilà. Si on voit Federer, on n'a pas envie de le voir jouer contre un mur. On a envie de le voir jouer contre un autre champion. Et c'est ça qui est fort. C'est là qu'il y a du suspense, c'est là qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la folie, qu'il y a de la violence, etc. Et je pense que c'est la même chose pour les acteurs et les actrices. Donc quand on a quelqu'un du niveau de Virginie, je pense qu'à chaque rôle, il faut trouver quelqu'un qui lui renvoie la balle d'une façon étonnante, forte. En tout cas, quelqu'un qui a de la personnalité. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas parfois dans les films, c'est quand les seconds rôles sont castés pour leur fonction ou sont castés d'une façon, bon, bah alors voilà, la serveuse, elle a une tête de serveuse, et le chauffeur de taxi, il a une tête de chauffeur de taxi, et puis le mari, il a une tête de mari. Moi, j'aime aller chercher des gens inattendus, des mondes inattendus. Par exemple, son mari, Bruno Salomon, c'est vraiment un acteur qu'on n'attend pas forcément au cinéma, en tout cas dans un film dramatique. Et en même temps, c'est un très grand acteur. Il est extrêmement touchant, comme parfois les comiques. Il a cette fêlure qui est très belle. C'est quelqu'un qui a un très bon timing, qui est très juste. Par ailleurs, ils se connaissent depuis longtemps aussi avec Virginie. Donc, je trouvais qu'il y a quelque chose qui marchait tout de suite dans l'idée que ce couple est marié depuis sûrement plus de 20 ans. Ça me plaît. J'aime l'idée qu'il y a frottement, parce que c'est deux cinémas qui ne sont pas tout à fait les mêmes. De la même façon, Nadav Lapid, qui lui est même pas acteur, lui, il est réalisateur.
C'est une sacrée surprise pour lui.
Oui, voilà. Et puis lui, il a cette présence incroyable, il a cette voix, ce physique, ce regard incroyable. Tout de suite, Virginie, Nadav, frottement, étincelle, il se passe quelque chose. Kim, c'est un acteur que je ne connaissais pas. Là, pour le coup, c'était vraiment le directeur de casting qui l'a dégoté, qui m'a montré une vidéo. J'ai tout de suite été ébloui par sa justesse. Et Kim, là aussi, il y a quelque chose qui, tout de suite, avec Virginie... Kim, c'est pareil, c'est un grand champion. C'est quelqu'un qui est d'une justesse de jeu absolument inouïe. Comme Virginie, il n'y a aucune mauvaise prise. Tout est incroyablement juste, nuancé, fort, présent. C'est quelqu'un qui... Voilà, tous les deux, ils ont une très grande force du tout de suite maintenant. Et ça, j'adore. Quoi. Et par ailleurs, ils avaient aussi... c'est un couple qui est très beau aussi, Kim et Virginie. Donc, il y a quelque chose aussi qui fonctionnait.
L'esthétique,
très fort. Voilà.
Et comment vous travaillez avec vos comédiens? Est-ce que vous êtes directif ou est-ce que vous avez quand même une écoute à ce qu'ils vous suggèrent?
Alors moi, je suis assez peu directif parce que justement, pour la raison que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pour moi, la direction d'acteur, c'est à 80% le casting. Mmh. C'est déjà choisir les gens et les 20% qui restent, pour moi, c'est qui on met devant ces gens. Mmh. Et c'est là que le match se passe. On n'a en général que à regarder quand les gens sont bons, quand ils ont investi leur rôle.
Ça coule de source.
Ça coule de source. Déjà, ça, c'est la première chose. Et après, j'aime aussi confier le rôle. C'est-à-dire que moi, je l'ai écrit. J'ai écrit le personnage de Judith, et à partir du moment où Virginie a accepté le rôle, elle est Judith, enfin, c'est elle qui a raison sur Judith. On a eu des conversations en amont, on a parlé du personnage, à partir du moment où on est d'accord, pour moi c'est elle qui va avoir raison sur le personnage, et j'aime bien faire confiance sur ça. Par exemple, Kim, c'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de backstory, on appelle ça. Il a besoin de savoir qui est Abdel, pourquoi il s'appelle Abdel alors qu'il est espagnol, pourquoi il est en Suisse.
Pour construire le personnage.
Oui, il a besoin de ça. Ce en quoi j'étais d'aucune aide, parce que alors moi j'ai écrit le scénario, mais je sais absolument pas ce qui se passe ni avant ni après, je sais rien, je suis pas du tout quelqu'un qui travaille les backstories. Mais je lui dis, dis-moi. Et alors Kim, il avait toute l'histoire du personnage. De né en Espagne, d'un père marocain, d'une mère espagnole, qui a immigré en Suisse, il avait toute l'histoire d'Abdel. Et je trouvais ça fascinant, j'adore ce travail.
C'est magnifique. Alors, on a déjà dit en début d'entretien, vous nous promenez entre la France et la Suisse. Vous étiez primé à Locarno, au festival.
Je n'ai pas été primé. J'ai montré à mon...
Autant pour
film.
Moi, c'est moi qui vous avais primé.
Ah, comme producteur.
Oui.
On a eu le prix de la mise en scène pour un film que j'ai produit. Ouais.
Et quelle est votre relation avec la Suisse et avec le public suisse?
Ben en fait, je viens de plus en plus en Suisse, de plus en plus régulièrement.
Pour les chocolats?
Uniquement pour les chocolats. Non, pas du tout pour les chocolats. J'ai commencé à venir en Suisse, en fait, pour la aide, pour l'école de la aide, où je fais des ateliers de réalisation avec les étudiants de première année depuis, je ne sais plus, c'est 3 ans ou 4 ans, que je co-anime avec une cinéaste qui s'appelle Marie Lozier, que je connais bien, avec qui on travaille depuis longtemps. Et c'est un vrai plaisir. Enfin, j'aime beaucoup encadrer les étudiants, j'aime beaucoup faire ça ici. J'avais commencé par faire le jury des films de la aide au Spoutnik, et je sais pas, je me suis attaché du coup à la vie culturelle, aux étudiants d'ici, à la ville, au lac, etc. Et puis après, il a été question de tourner mon film ici, donc du coup je suis revenu en repérage, du coup j'ai passé beaucoup de temps avec mes productrices ici, j'ai passé, voilà. Et puis quand on est en repérage, on fouille toute la ville. On va voir le moindre recoin, la moindre rue, et ça crée un attachement à une ville. Donc voilà, au fur et à mesure des repérages, de la aide, etc. Puis du coup, j'ai commencé à y venir en vacances, etc. etc. Et maintenant, j'ai un vrai attachement à Genève, j'ai l'impression d'arriver à la maison quand j'arrive. Et voilà, alors que je connais encore plutôt mal la Suisse, en fait. Mais pour l'instant, ça se concentre un peu sur Genève. Mais mon prochain atelier de réalisation avec la aide n'est pas à Genève, c'est... en dehors, quelque part dans les montagnes. Donc, je suis très, très impatient de ça.
Alors, on se réjouit, en tout cas, parce que le public vous attend impatiemment ce soir, pour l'avant-première. Vous mentionnez, au début de l'entretien, Antonioni, après Kramer contre Kramer. Quels sont les cinéastes qui vous ont amené à empoigner la caméra?
Ah, beaucoup. Moi, j'étais un jeune de d'Aulnay-sous-Bois, de banlieue parisienne, donc il n'y avait pas forcément un accès à une culture très pointue, en tout cas quand j'étais adolescent. Donc moi, les premiers chocs, c'est des chocs complètement blockbuster mainstream. Moi, j'aimais Indiana Jones, j'aimais Greystoke, la légende de Tarzan, j'aimais E.T., voilà, ça, c'était les premiers chocs de cinéma. Après... Après, ma mère étant prof de français, elle avait aussi, elle avait envie que j'aie une vie culturelle aussi. Donc, elle a commencé à fouiller un petit peu ce qui, en banlieue, pouvait passer d'un peu plus pointu, justement, dans les maisons de la culture, etc. Donc, j'ai commencé à voir du cinéma d'auteur, peut-être vers 13-14 ans. Et je me souviens du choc absolu du film de Téchiné, Rendez-vous, avec Juliette Binoche, qui, ça, a été pour moi un virage total. Assez vite après, il y a eu le Rusty James de Coppola. Ça a été des chocs immenses pour moi. Et après, jeune adulte, ça a été plus, par exemple, le cinéma taïwanais, notamment de Sammy Liang. Pour moi, ça a été un choc absolu. Et puis, au tournant 2000, il y a eu une succession de films, je crois 3 ou 4, qui étaient des films qui abordaient la monstruosité. Pas forcément sous l'angle du fantastique, justement, mais sous un angle plus réaliste. Il y avait Au Fantasma de Jean-Pedro Rodriguez, qui est justement le cinéaste que j'ai produit pour lequel on a eu plus la mise en scène à Locarno, un film qui s'appelait L'Ornithologue. Il y a eu Incassable, le film de Shyamalan sur Bruce Willis, qui devenait une sorte de super-héros, mais dans un contexte réaliste. Il y a eu The Hole, justement, de Sammy Liang, où les hommes, des espèces d'hommes cafards, avec cette espèce d'animalité dans le corps. Et il y avait le Trouble Every Day de Claire Denis qui là aussi montrait une espèce de quotidien d'une femme vampire. Et ces quatre films, qui étaient à peu près la même année, je crois, 2000-2001, ça a été une absolue révélation sur quelque chose qui depuis me poursuit, qui est justement. J'avais déjà ce rapport à la monstruosité, j'avais déjà une affection immense pour les créatures, les monstres au sens émouvant du monstre. Mais là, ces quatre films m'ont ouvert complètement une brèche. Aussi sur une forme d'expressionnisme, justement, à quel point dans le réalisme on peut exprimer une fêlure, une douleur par quelque chose qui est de l'ordre du mythologique, de la créature, du surnaturel, sans forcément épouser les codes du surnaturel ou du film de genre ou du etc. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très très fort.
Et ça ouvrait des portes à une écriture encore plus dense, encore plus prolixe.
Oui, et puis même pour Madeleine Collins, qui est mon premier film sans aucun élément surnaturel, le film est un thriller mais absolument réaliste dans les faits, moi j'aime voir le personnage de Virginie comme une créature. Pour moi c'est quasiment un monstre mythologique, c'est une sorte de créature à trois têtes quelque part. Et j'aime bien voir le personnage sous cet angle-là, ça me plaît.
La méduse avec plein de.
Ouais. C'est un angle que j'aime bien sur les choses, en tout cas. Et le personnage de Nadav comme une sorte de pitié ou de passeur ou d'oracle ou de je ne sais quoi. J'aime retomber sur les créatures, la mythologie, etc. Même dans du réalisme comme celui-là.
Et jusqu'à présent, quel a été l'accueil du public? Vous étiez, si je ne me trompe pas, en Italie?
Oui, la première du film, c'était à
À
Venise
Mosca.
en septembre. Après, je l'ai. Bah là, ça fait 4-5 mois que je montre le film quasiment tous les soirs,
Vous l'accompagnez?
partout en France, à Dublin, à Amsterdam, à Stuttgart, ici. C'est très joyeux. Bah, les rencontres avec le public sont vraiment super parce que j'ai l'impression que le film amène des questions parfois assez personnelles, assez denses. Et qui amène dans des recoins vraiment intéressants parce qu'on se retrouve justement à parler de choses qui sont un tout petit peu en dehors des conventions. On se retrouve justement, parfois les gens me disent des choses intimes où les gens sont excités justement par la forme ludique du film, du puzzle. Donc oui, les rencontres sont en général très belles. Après, l'accueil de la presse a été assez merveilleux en France, je dois dire. Et voilà, donc pour l'instant, non, j'ai eu. Il y a juste un monsieur, je crois, dans le sud de la France, qui m'a dit.
Ça
Parce
me rappelle ma femme.
On parlait du mensonge et qui disait: Mais moi, je tiens à vous dire que c'est mal, ce qu'elle fait, c'est mal, elle ment, faut pas mentir. Alors voilà, des fois, il y avait une réaction un peu basique comme ça. Mais sinon,
C'est
les
une
relations.
émulation, un échange.
Ouais, elles sont. Les rencontres sont assez belles et je me suis retrouvé à faire des débats. En général, on est à un quart d'heure, 20 minutes de débat après un film. J'ai fait des débats d'1h20, 1h15, 1h40, où on est viré de la salle par les exploitants. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public et c'est très chaleureux et très excitant.
Je sais que je dois bientôt vous quitter, malheureusement, à grand regret, puisqu'il y a l'avant-première d'ici peu. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du projet? Vous êtes déjà en train d'écrire?
Oui, je suis en train d'écrire deux projets complètement différents. Un projet qui justement recoupe encore la figure du monstre, du corps animal, mais qui est aussi un film assez engagé. Et le deuxième qui serait autour des trois sœurs, la pièce de Tchekhov. Donc vraiment des choses absolument pas du tout proches l'une de l'autre.
Donc votre écriture, votre imagination, toutes deux sont stimulées par en fait des intérêts totalement différents, totalement opposés parfois.
Ouais.
C'est ça qui vous stimule.
Oui, en fait, moi je suis très éclectique dans la forme. Mais en réalité, quand on regarde le fond, il y a beaucoup de choses en commun et quasiment tous mes films sont de façon plus ou moins littérale quand même sur la figure du monstre, d'une forme de créature, et aussi sur les gouffres identitaires. Le fait de se réimaginer, de se réinventer, c'est quand même quelque chose qui traverse tous mes films. Après, la forme, oui, change complètement. La forme, le budget, les acteurs, la durée. J'aime changer de forme beaucoup. Peut-être comme des différentes identités justement, mais quand même dans le fond les thématiques se retrouvent.
C'est très mythologique d'ailleurs.
Sûrement.
Et si vous étiez une figure de la mythologie grecque, qui seriez-vous? S'il faut choisir.
Moi je pense tout de suite à Ulysse parce que c'est quand même c'est merveilleux quoi.
Des voyages?
Oui, les voyages,
les rencontres.
Et puis finalement, Ulysse n'est peut-être pas celui qui est passionnant lui-même, mais en tout cas, il est celui qui rencontre toutes les figures passionnantes. Mmh. Et ça, c'est quand même pas mal.
C'est un bel itinéraire. Ouais. Merci Antoine Barraud pour cet entretien et merci pour votre film.
Merci à vous.
Bon succès ce soir.
Merci.